déchaîner. À fond les boulons.
Salut, c'est la classe des déchaînés de Cetache à 8 Cernans devant Romont.
Une commune qui regroupe 9 villages dans notre belle région qu'est la Glane.
Un programme aujourd'hui. Plein de questions auxquelles nous allons tenter de répondre comme...
Les classes tablettes, comment ça marche?
Qu'est-ce que le débourrage d'un cheval?
La pole dance, qu'est-ce qui se cache derrière cette barre?
Un projet de salle de sport à 8 Cernans devant Romont, où en sommes-nous?
La beatbox, c'est quoi?
Et enfin, quel est le programme de la journée d'un hockeyeur professionnel?
Et tout ça accompagné de bonne musique.
De quoi passer un bon moment à votre compagnie.
Alors vous êtes prêts?
C'est parti mon kiki! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of surrender. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
C'était Diamonds de Rihanna. Salut Maxence. Eh oh, Maxence, tu pourrais lever le nez de ton téléphone 2 secondes quand je te parle?
Hein? Quoi?
Oh, toi, je sens que notre reportage va t'intéresser. Les classes tablettes ou classes numériques au CO de Romont, tu connais?
Des classes tablettes? Sérieux? Mais c'est vrai! C'est nouveau!
Oui, c'est assez récent. Ça doit faire 2 ou 3 ans, pas plus.
Et c'est quoi le but exactement?
Eh ben, je te propose qu'on aille directement demander de quoi il s'agit à Lévic Rosa. C'est le directeur du cycle d'orientation de la Glane, à l'origine de ces classes. Et pose-moi Snatel.
Alors, une classe tablette, c'est une classe dans laquelle tous les élèves ont soit une tablette, soit un ordinateur tactile avec stylet, et ils vont les utiliser pour leurs cours et leurs devoirs.
Comment avez-vous eu l'idée de mettre sur pied des classes tablettes?
Dans la vie de tous les jours, par la suite, une fois que l'école sera finie, la plupart des professions, il faudra utiliser une tablette, un ordinateur, c'est de plus en plus courant, ça devient quelque chose de courant. Donc pour nous, c'est très important de pouvoir former les élèves déjà au cycle d'orientation pour leur donner ces compétences d'utilisation des tablettes. Donc ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on a la possibilité, les élèves ont la possibilité d'intégrer une classe qu'on appelle nous numérique, parce que c'est plus des classes tablettes, on appelle des classes numériques, pour mettre en place toutes ces compétences.
Est-ce que ça coûte plus cher qu'une classe normale?
Très compliqué à vous répondre. Dans une classe normale, il y a énormément de photocopies, il y a tous les livres. Donc sur 3 ans, je pense que ça coûte un petit peu plus. Par contre, une tablette peut s'utiliser pour plein d'autres choses que nécessairement le papier crayon. Je pense aux calculatrices, je pense en musique à un métronome, je peux penser à une caméra, un appareil photo. Toutes ces utilités, on n'a pas besoin d'acheter d'autres appareils que l'ordinateur. Donc ça devrait coûter un peu plus cher, mais je ne peux pas vous dire exactement de quel pourcentage.
Combien de classes tablettes y a-t-il par rapport aux classes normales?
Alors, nous avons 46 classes normales cette année au CO de la Glane. Nous avons cette année 7 ou 8 classes tablettes. 7 classes tablettes. L'idée est de pouvoir offrir d'ici 2 ans 9 classes tablettes au CO de la Glane, c'est-à-dire une par type de classe par année. Ce qui fait 9 classes tablettes à terme au CEO d'Aglan. Donc les élèves auront la possibilité de choisir s'ils veulent faire partie d'une classe tablette, d'une classe numérique ou pas.
Êtes-vous satisfait du fonctionnement de ces classes ?
Alors, on a fait déjà des aménagements, on a changé des choses, parce que comme je vous le dis, ça fait depuis plusieurs années qu'on a ces classes tablettes, donc on a modifié certaines choses. Aujourd'hui, on a un fonctionnement qui est relativement bon. On va encore l'améliorer d'ici l'année prochaine. C'est le but de ces classes-là, c'est de voir qu'est-ce que ça apporte aux élèves, qu'est-ce qu'on doit encore modifier. Donc on essaye de modifier chaque année certaines choses. Mais aujourd'hui, on voit de superbes choses qui se passent dans ces classes tablettes. Et j'en suis content, ouais.
Et pour la suite, que prévoyez-vous pour les années à venir ?
Alors, comme je vous l'ai dit, c'est déjà d'augmenter le nombre des classes numériques. J'espère que les budgets, l'argent nous permettra de le faire. Essayer d'améliorer encore la formation des enseignants par rapport à l'utilisation de ces tablettes. Et puis peut-être d'améliorer encore tout ce qui se passe par rapport à l'apprentissage des langues par rapport à ces tablettes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le but c'est d'améliorer année après année ce qu'on fait avec ces tablettes. Et puis, de cette manière, d'offrir un service qui soit de très bonne qualité pour les années qui viennent.
Qu'en pensent les enseignants concernés et comment fonctionnent-ils à l'intérieur de ces classes ?
Nous avons posé la question à Christophe Gobet et à Julien Sudan, enseignants expérimentés dans ces classes à Romont.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ces classes ?
Alors, c'est de pouvoir offrir à nos élèves des appareils, je crois qu'ils sont plutôt contents de pouvoir travailler avec ça. Et puis que c'est quand même des outils qui sont, c'est plutôt pour le futur, c'est-à-dire qu'on leur apprend déjà à utiliser l'informatique pour organiser et améliorer leur travail, leur apprentissage.
Combien d'élèves avez-vous dans ces classes ?
Moi, j'ai 20 élèves dans ma classe, mais au CEO, on a 6 classes tablettes et le nombre varie entre 17 et 26. Donc ça dépend dans quelle section ils sont. En classe EB, ils sont plutôt 18. En classe G, 24. Et des fois, en PG, ils sont 26, 27.
Comment enseignez-vous dans les classes tablettes ?
Alors, avec la tablette, premièrement, déjà, le prof, il en a une. Donc, il peut montrer beaucoup de choses. Les élèves peuvent aussi montrer des choses. Mais il faut aussi voir que dans les classes tablettes, on ne bosse pas seulement avec les tablettes. On bosse aussi de manière traditionnelle, avec des livres, avec des fiches. Et quand on voit une plus-value avec la tablette, qu'on peut obtenir avec la tablette, on utilise la tablette. Mais autrement, c'est une classe standard et qui parfois emploie la tablette pour des plus-values, comme j'ai dit avant.
Quel enseignement préférez-vous ?
Alors, je pense que les branches où il y a le plus d'avantages, c'est quand même les branches de l'environnement comme l'histoire, la géographie, les sciences. Mais il peut y avoir aussi d'autres, par exemple en sport, on peut se filmer et puis se corriger. En mathématiques, il y a aussi toute une catégorie d'exercices, on peut s'entraîner grâce à la tablette et être corrigé tout de suite. Donc je pense que chaque branche a quelque chose à voir là-dedans. Mais que histoire, géographie, sciences seront peut-être un peu celles qui sont les plus favorisées.
Quel est le principal avantage ou inconvénient selon vous ?
Alors moi, qui enseigne en classe EB, je vois un avantage, c'est pour l'ordre. C'est-à-dire qu'on n'a plus, comme peut-être vous avez à l'école primaire, dessous le cartable, une couche de feuilles, parce qu'on leur donne beaucoup de théories sur l'ordinateur, donc ils ont tout dans leur tablette, on leur montre, bien sûr, on doit leur enseigner aussi comment classer, mais il y a plus d'ordre. Et c'est un avantage que les élèves, ils me disent assez souvent, c'est que, on n'a plus toutes ces feuilles qui traînent partout, puis après, on doit rester un après-midi... le mercredi après-midi, par exemple, pour ranger avec le prof. Donc ça, c'est un avantage. Les inconvénients, je vois aussi les inconvénients matériels, c'est-à-dire il faut faire attention. C'est quand même une tablette qui coûte de l'argent, donc on doit être soigneux. Dans le CO, là, on a quand même pas mal d'appareils qui sont en circulation. On a peu de dégâts, mais quand on a des dégâts, c'est vrai que c'est tout de suite un petit peu embêtant. Ça peut être un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est si on est aussi un petit peu forcé de l'employer. Donc nous, avec nos enseignants, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande d'aller petit à petit aussi, parce qu'eux aussi doivent apprendre, pas seulement les élèves, à enseigner avec la tablette. Et puis ça rend la classe un petit peu différente, parce que les élèves sont beaucoup plus actifs, ils peuvent beaucoup plus participer, ils peuvent projeter aussi à la télé leurs travaux. Donc on doit aussi se réapprendre un petit peu dans ces classes. Alors c'est un avantage ou un inconvénient, ça dépend.
On vous propose maintenant d'entendre l'avis de trois élèves.
Nolan, élève de 9H au CO de Romont qui a choisi de s'inscrire en classe tablette.
Julien, élève de 10H qui a opté pour les classes standards.
Et enfin, Héloïse, élève de 8H qui rejoindra le CO l'année prochaine.
Ils nous donnent leur avis sur la question.
Ce que je trouvais intéressant de travailler avec des tablettes, et puis c'était aussi la première classe tablette PG du CO de Romont. Puis ça rajoute toujours un peu de piment, vu que dans n'importe quelle branche, on peut toujours aller chercher des informations sur Internet, puis sur d'autres navigateurs.
Qu'est-ce que tu aimes en particulier dans ces classes ?
Bah justement, il y a une bonne ambiance, vu que il y a toujours des petites informations à rajouter, justement, quand, comme je prends par exemple hier, on était en maths, puis on parlait des mers Méditerranée, puis on a toujours pu aller chercher la profondeur des océans, enfin, puis de la mer Méditerranée.
Comment as-tu pu rejoindre ces types de classes ?
Ben, c'était l'année passée, en fin du tâche, on avait reçu des inscriptions, enfin des formulaires qu'on pouvait remplir si on voulait aller en classe tablette. Et puis moi ça m'a intéressé, puis j'ai choisi d'y aller, quoi. Enfin, j'ai envoyé ça au CO et puis j'ai été choisi.
Bonjour Julien, pourquoi n'as-tu pas choisi la classe tablette ?
Quand j'ai commencé l'école, il y a 2 ans maintenant, j'avais pas le choix parce qu'il n'y avait pas de classe tablette PG. Donc j'étais obligé de faire une classe et aller en classe normale.
Est-ce que tu regrettes ce choix ou es-tu satisfait de faire partie d'une classe normale ?
Non, ça me dérange pas. Comme j'avais pas le choix, ça me dérange pas. J'ai toujours été dans une classe normale, donc ça me change pas grand-chose.
Héloïse, en quelle année es-tu actuellement ?
Alors, moi, je suis en 8H, donc encore en primaire.
L'année prochaine, tu iras au CO. Veux-tu aller dans une classe tablette ou une classe normale ?
Alors, je sais pas encore. Donc, le truc, c'est que classe tablette, c'est cool, mais tu fais tout sur la tablette. Donc, moi, je sais pas si j'aurais vraiment besoin d'une classe tablette ou pas. Donc, je sais pas encore.
Vraiment sympa ces classes tablettes.
Ouais, vivement le CO, moi j'attends plus que ça.
Ouais, doucement, on n'est pas si mal dans notre école de Wisternance de Vin-Romont.
Ouais, t'as raison, et des tablettes, on en utilise déjà en fait.
Sage conclusion, en effet, les filles. Merci Lily, Estelle, Chloé et Laure, et bonne journée à vous. On s'écoute la Macarena de Los del Rio.
Les déchaînés ! À fond les boulons !
Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I.
Now, come on.
Salut, comment ça va ?
Salut, on pète la forme.
Et pourquoi vous avez autant le smile ?
On revient de notre premier cours et c'était trop bien.
Ah ouais ? Et quel genre de cours ?
De cheval !
Cool ! Et comment on fait au juste pour monter un cheval ?
Bonne question. On peut aller demander à Samuel Charrière du centre équestre de l'Ajou. Il saura nous répondre.
Alors, avant de pouvoir commencer à monter un jeune cheval, les principales étapes, c'est déjà de faire toute l'éducation à côté, que le cheval soit en confiance avec l'homme, qu'il soit bien éduqué aussi, qu'il soit respectueux, puis qu'il ait l'habitude en fait d'être avec les hommes, et puis déjà de faire un peu des petites bases de travail au sol et de longe, qu'il ait déjà un peu l'habitude de travailler sans qu'on l'ait monté.
On parle parfois du débourrage, de quoi s'agit-il ?
Alors le débourrage, c'est toute la base de formation qu'on donne à un jeune cheval. Du moment où le jeune cheval il est encore à l'état de poulain, puis qu'il n'a encore rien fait en termes de travail, jusqu'à ce que le débourrage il se termine quand le jeune cheval il peut être monté comme un cheval adulte ou attelé, parce qu'on parle aussi de débourrer à l'attelage, donc en rapport aux disciplines que le cheval va faire. Le débourrage, c'est depuis le début où le cheval ne sait rien faire, jusqu'à la fin où il peut être utilisé comme un cheval routinier ou comme un cheval adulte, que ce soit à la selle ou à l'attelage.
Comment fait-on pour débourrer un cheval ?
Alors, il y a plusieurs manières. Ça dépend un peu de la discipline que l'on fait. Ça dépend aussi un peu des cultures. Par exemple, en Amérique du Sud ou en Asie ou en Afrique, ils n'ont pas la même manière de débourrer les chevaux que comme nous en Europe. Ça dépend aussi un peu des disciplines. Si on fait plutôt de la selle, donc du dressage, du saut d'obstacle, si on fait du western, si on fait de l'attelage, si on va aussi, par exemple, aussi, il y a une manière de débourrer les chevaux pour faire les courses. Hein. Mais disons que la manière la plus conventionnelle, la plus classique, c'est de commencer par travailler le cheval au sol, donc à pied, à la longe. On l'habitue progressivement après déjà à faire des transitions, à faire des allures, à faire ce qu'on lui demande, à ce que le cheval comprenne gentiment qu'est-ce qu'il doit faire. Après, une fois que le cheval a bien l'habitude de, entre guillemets, d'obéir à ce que lui dit de faire l'être humain, on va l'habituer à avoir quelque chose sur le dos, donc à savoir là, par exemple le tapis de selle, etc., la selle ou le harnais pour l'attelage. Puis après, on va petit à petit l'habituer à ce qu'il y ait un cavalier, une cavalière qui commence à le monter, à lui monter sur le dos.
Quel âge doit avoir un cheval pour le monter ?
Alors ça dépend aussi un peu des disciplines. On parle, on a un peu la règle des 3 ans. Généralement, on débourre les chevaux l'année de leurs 3 ans. Mais par exemple, dans les courses, pour les courses, les chevaux sont débourrés beaucoup plus tôt. Ça arrive facilement qu'il y ait des jeunes chevaux en course qui courent déjà, par exemple, au trot attelé ou à la selle pour les galopeurs. L'année de leurs 2 ans, ils font déjà une saison complète de course. Donc ça, c'est très très tôt. Maintenant, après, ça dépend aussi. Vous avez par exemple les chevaux ibériques, on en a aussi ici dans l'écurie. Les chevaux espagnols, andalous ou portugais, c'est des chevaux qui ont pas mal de sang, qui sont assez nerveux. Puis du coup, c'est des chevaux qu'on dit tardifs, des chevaux qui grandissent un peu plus longtemps et puis qui aussi, dans leur caractère, qui deviennent un peu matures un peu plus tard. Donc ça arrive souvent qu'on les débourre pas avant 4, des fois même 5 ans. Mais en moyenne, les chevaux pour la selle, pour l'équitation classique, on les débourre l'année de leurs 3 ans.
Quelles sont les différentes manières de débourrer un cheval ?
Alors, comme on a dit avant, ça dépend un peu de la discipline. Généralement, sous nos latitudes, si on prend l'exemple en Suisse, que ça soit pour le western, le classique ou autre, il y a plus ou moins toujours un peu la même manière de débourrer les chevaux. Donc, on commence à travailler au sol, on commence par les longer, on les habitue à la longe, etc. Et puis après, on commence par les monter à la longe. Il faut savoir qu'il faut toujours être deux. Il y a toujours... Au début, les premières fois qu'on monte un cheval, il y a toujours une personne à pied qui tient le cheval et qui fait travailler le jeune cheval à la longe. Puis une personne montée, donc une personne qui va dessus et puis qui fait office de cavalier. Au tout début, il faut toujours être deux pour gérer un peu le cheval à côté. Maintenant, en classique surtout, à l'époque, ça c'est une manière de faire qui se fait de moins en moins, qui se faisait beaucoup quand on utilisait les chevaux pour l'armée. Ils avaient une manière de faire où ils prenaient le jeune cheval à côté d'un cheval plus routinier, d'un cheval adulte. Et puis, il y avait une personne qui montait le cheval adulte, qui avait l'habitude d'être monté depuis déjà plusieurs années. Et puis cette personne, depuis le cheval qu'elle montait, elle tenait le jeune cheval à côté. Et puis, on habituait le jeune cheval à suivre le cheval routinier. Et puis après, on mettait un cavalier sur le jeune cheval. Puis le cheval, il avait déjà l'habitude de suivre son copain qui avait plus âgé. Et puis, comme ça, le cheval, il était déjà habitué au mouvement. Le jeune cheval, il acceptait volontiers le cavalier. C'était une manière de faire plutôt à l'ancienne. Ça se fait encore au manège à Berne, ou au manège fédéral. Il n'y a plus de militaires, il n'y a plus d'armée, sauf pour les colonnes de train, mais il n'y a plus de cavalerie. Mais ils utilisent encore cette manière de faire.
quel regard portez-vous sur votre métier ?
Comme toutes les personnes qui aiment leur métier, on aurait envie de dire que c'est le plus beau métier du monde. Après, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas facile, parce que vous savez comment ça va, quand on travaille avec les animaux, on doit travailler toute la journée, on doit travailler tous les jours de l'année, hein, on ne peut pas avoir congé le samedi et le dimanche, mais du coup... je perds un peu le fil là du coup. Alors c'est un métier avec lequel on doit faire beaucoup d'heures, on doit travailler dehors, donc l'hiver c'est un peu plus difficile. C'est clair que c'est très valorisant parce qu'on est avec les animaux, on travaille pour le loisir des gens, donc on a un peu l'impression, même si on fait beaucoup d'heures puis que le travail n'est pas toujours facile, on a quand même un peu l'impression de tout le temps être en vacances.
Ah, quel beau métier! Moi, ça me fait rêver.
Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil sur leur site www.sc-equitation.ch. C'est plein d'informations utiles sur leur camp et leurs leçons d'équitation.
Merci Léane, Mathilde ainsi que Pauline et Elina pour votre visite. À bientôt et maintenant, petite pause musicale avec Maroon 5 Animals.
Les déchaînés!
Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies.
Hello les filles! Oula, ça a pas l'air d'aller fort!
Non, on est toutes courbaturées!
Ah bon? Pourquoi?
Hier soir, on a eu notre première leçon de pole.
Votre leçon de quoi?
De pole dance! Tu connais pas?
Non, je connais le pôle nord, le pôle sud, mais pas la pole dance.
Ha, très drôle! Je te propose qu'on aille demander à Clémentine Piller, prof de pole dance à Romont.
Et une des meilleures danseuses de pole en Suisse.
Alors la pole dance, c'est un sport acrobatique qui mélange un côté artistique avec un côté sportif. On peut la faire un petit peu plus inspirée de la gymnastique, un peu plus inspirée de la danse, un peu plus inspirée du cirque. Donc c'est aussi très vaste ce qu'on peut faire avec la barre, mais c'est ouvert à tous et puis on peut tous y trouver un peu quelque chose qui nous plaira là-dedans.
Comment se passent les concours ?
Alors, il y a des concours amateurs jusqu'à professionnels. Le principe, c'est qu'on doit présenter une chorégraphie de 3 minutes 30 à 4 minutes 30 avec des éléments autant dans la barre spinning, donc la barre qui va tourner sur elle-même, que sur la barre statique, la barre qui ne tourne pas. Donc, ça va être plutôt l'athlète qui va devoir tourner autour de la barre. Ensuite, il y a des juges qui vont choisir selon différents critères qui ce sera les meilleurs. Ça peut être des critères artistiques, donc ça va être la créativité, la fluidité des mouvements, ou des critères sportifs, un petit peu comme le patinage artistique, où certaines figures doivent être exécutées parfaitement pour avoir tous les points.
Quels sont les différents niveaux de pole dance ?
Alors, il existe tous les niveaux de pole dance, depuis le tout débutant au très très expert. Donc, on peut vraiment aller à l'infini de la difficulté, je crois. Et En principe, dans les compétitions, il y a amateurs, semi-professionnels, qui vont être des gens qui donnent des cours, et puis les professionnels, qui vont être des athlètes qui auront déjà gagné des compétitions à semi-pro.
Quel physique doit-on avoir ?
Alors, il y a tous les physiques qui peuvent faire de la pole. C'est surtout en pratiquant le sport qu'on va former notre corps pour tenir. Par exemple, je pense aux bras. Souvent, les gens ils disent « je ne peux pas faire de pole parce que je n'ai pas de force dans les bras ». Mais en fait, c'est en faisant qu'on acquiert la force nécessaire et puis qu'on se tonifie aussi le corps.
Et quel matériel est nécessaire pour pratiquer ce sport ?
Alors, on a besoin que de la barre de pole pour pratiquer ce sport. Un peu d'espace aussi, parce que si on fait dans un espace trop petit, on risque un peu de casser des choses. Donc une barre, un peu d'espace, et puis éventuellement des tapis de yoga ou des blocs de yoga si on pratique la souplesse à côté ou d'autres sports complémentaires comme le yoga, pilates.
Pourquoi avez-vous voulu être maîtresse de pole dance ?
J'enseigne déjà la danse depuis 2005 dans une école que j'ai créée avec une amie à Recens. Et quand j'ai commencé la pole, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait aussi mélanger avec la danse. Et j'avais envie de transmettre ma passion à d'autres personnes pour qu'ils puissent la découvrir et puis par la suite la pratiquer.
À quel âge avez-vous commencé ?
J'ai commencé la pole à 24 ans.
Est-ce que ça vous arrive de participer à des concours ?
Oui, j'ai participé depuis 2015 à peu près 12 compétitions internationales. Donc en Suisse, en Islande, à Londres, à Majorque. J'ai beaucoup voyagé pour faire ces compétitions. J'ai commencé avec le niveau amateur, puis je suis passée en semi-professionnel quand j'ai commencé à donner des cours. J'ai gagné une compétition en Suisse qui s'appelle le Pôle Théâtre Suisse. Et depuis, je dois concourir dans la catégorie professionnelle.
Avez-vous une barre de pole dance chez vous ?
Oui, j'en ai une depuis que j'ai commencé à faire de la pole, presque.
Combien de fois entraînez-vous par semaine ?
Je donne entre 3 et 4 fois par semaine des cours. J'essaye de m'entraîner à côté pour moi. Donc ça varie beaucoup, je fais entre 3 et 6 fois par semaine de la pole.
Une barre de pole dance dans sa chambre, c'est la classe.
C'est clair, je sais ce que je demanderai pour mon prochain anniversaire.
C'est beau de rêver, mais vous pouvez nous rappeler le nom de cette école de danse ?
Oui, c'est l'école de danse de la colline à Romont.
Et tu trouveras tout plein d'informations sur www.danse-romont.ch.
Merci Linda, Mélina, Chiara et Juliana, on s'écoute. Girls Like You de Maroon 5 et on revient tout de suite.
Les déchaînés ! À fond les boulons !
Salut les garçons, vous en tirez une des têtes, ça va pas ?
Non.
Pourquoi ?
Mais parce qu'on a de nouveau pas la gym à cause des horaires de cette foutue salle de sport trop petite pour accueillir tout le monde.
Ah mais tu sais pas la nouvelle ?
Non, quoi ?
Il y aura une nouvelle halle de sport à Vistalens-de-Romont.
Ah ouais?
Oui, écoute les précisions données par Jean-Bernard Sachaud, syndic de Vistalens-de-Romont. Il nous explique d'abord les raisons de ce projet.
C'est le conseil communal qui a décidé de faire un projet d'une nouvelle halle de sport. Alors pourquoi une deuxième halle de sport? Parce que celle qui existe actuellement ne suffit plus pour répondre aux besoins scolaires. Vous avez l'obligation de suivre un certain nombre d'heures de sport chaque semaine et nous n'arrivons pas à remplir ces conditions. Raison pour laquelle il faut une deuxième halle.
Où sera située cette salle?
Alors cette salle de sport va être située dans le périmètre des écoles. On sait plus ou moins où elle sera, mais les architectes sont très libres de choisir l'emplacement qu'ils veulent lors du concours. Mais en principe, elle se situera sur le grand parking près des terrains de sport.
À quoi ce bâtiment ressemblera-t-il?
Alors ça, on ne le sait pas encore, puisqu'il y a un concours. Un certain nombre d'architectes sont désignés pour réaliser un dessin, un plan, une idée de cette nouvelle halle de sport. Et c'est eux qui laisseront aller un petit peu leur imagination pour réaliser cette nouvelle salle. Mais on ne sait pas encore exactement à quoi elle ressemblera.
Comment sera équipée la salle de sport?
Alors, ce sera une salle de sport équipée comme l'ancienne que vous avez, mais elle sera un petit peu plus grande, puisque les normes fédérales au niveau du sport ont changé depuis la construction de l'ancienne halle de sport. Aujourd'hui, ces halles de sport sont un petit peu plus grandes. Et comme il y en aura deux, eh bien, ça va faire deux fois l'existante, voire même un petit peu plus.
À qui va servir la nouvelle halle de sport?
À qui elle va servir? Ben, principalement pour les écoles, bien sûr, puisque, comme je vous le disais avant, on n'arrive pas à vous donner suffisamment d'heures de sport par semaine. Donc là, toutes les classes pourront réaliser le nombre d'heures de sport qu'elles doivent réaliser chaque semaine. Et puis, elle servira également aux sociétés, puisqu'il y aura des sociétés qui peuvent aussi l'utiliser, par exemple les sociétés sportives qui le soir font déjà du sport, du badminton, du volleyball, le football l'utilise aussi. Et voilà, il y a plein de monde qui va pouvoir l'utiliser en dehors des heures d'école.
La buvette du foot se trouve sur l'emplacement de la future salle. Que va-t-elle devenir?
Alors, que va-t-elle devenir? Elle devra être démolie si la halle de sport vient exactement à cet emplacement-là. Mais elle sera réintégrée dans le nouveau complexe. C'est-à-dire qu'on prévoit de faire un espace spécifique pour remplacer la buvette de foot.
Et que va devenir l'ancienne salle de sport?
L'ancienne salle de sport, pour l'instant, va rester une salle de sport, mais à terme, le bâtiment actuel va peut-être servir pour une extension du bâtiment scolaire actuel, puisque vous avez remarqué, aujourd'hui, toutes les classes sont utilisées dans ce bâtiment. Donc, si la population vient à augmenter sur le territoire de la commune, ça voudrait dire plus d'enfants, ça voudrait dire besoin de plus de salles de classe. Et pour ça, eh bien, il n'y aurait pas d'autre solution que de soit construire de nouvelles salles de classe, soit peut-être transformer l'ancien bâtiment pour pouvoir accueillir des nouvelles salles de classe, peut-être accueillir aussi l'extrascolaire, peut-être un jour une cantine scolaire, on ne sait pas. Il y a plein de choses qui sont possibles avec cet ancien bâtiment.
Où en est ce projet?
Où en est ce projet? Actuellement, ce sont des architectes qui sont en train de réaliser un concours. Ce sont 8 bureaux d'architectes qui vont chacun faire leur projet par rapport à un cahier des charges qu'on leur a donné. Et au mois de janvier, on va décider quel sera... Enfin, on va recevoir d'abord des maquettes, des propositions de ces architectes. Et puis après, au mois de février, il y a un jury qui va faire un choix et qui va dire, voilà, on choisit le numéro 2, le numéro 4, le numéro 8, et ainsi de suite. Et puis après, eh bien, ce concours réalisé, il y aura ce qu'on appelle un vernissage, c'est-à-dire que le choix sera présenté à la population.
Quelles sont les prochaines étapes?
Alors la prochaine étape, c'est justement ce concours, ce jury qui va se prononcer. Ensuite, ce sera le vernissage présenté à la population. Et puis ensuite, il faudra demander à l'Assemblée communale, c'est-à-dire à tous les citoyens actifs de la commune, leur demander ce qu'on appelle un crédit d'investissement, c'est-à-dire un montant financier pour pouvoir réaliser cette nouvelle salle de sport.
Quand le bâtiment devrait-il être prêt ?
Alors, si tout va bien, si on peut démarrer en 2022 avec ce bâtiment, je pense qu'à la rentrée 2023-2024, il pourrait être inauguré.
Où trouvez-vous l'argent nécessaire ?
Alors, l'argent nécessaire, c'est l'argent de la commune. Si on n'a pas suffisamment de liquidités, on emprunte de l'argent auprès des banques. Et puis, c'est un projet qui se rembourse après sur environ 30 ans.
Eh bien, il y a de quoi se réjouir.
Ouais, mais il va falloir être un peu patient.
D'autant plus que dans 2 ans, bye bye, Sternance, on sera à l'école secondaire à Romont-les-Cocos.
Ah ouais, c'est juste. Bon, c'est pas si grave, pareil qu'ils construisent une monstre piscine à Romont.
De quoi bouger un max dans notre région. Merci William Elder ainsi que Jérémy et Adrien pour votre reportage. Belle journée à vous. La suite avec Martin Garrix, Animals.
Les déchaînés ! À fond les boulons !
Vous faites quoi là ?
Bah, on fait de la beatbox.
Ah bon ? Mais c'est quoi la beatbox ?
Bah, c'est justement ce qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, tu connais Ninaji ?
Non, jamais entendu parler.
C'est l'un des premiers beatboxeurs du monde, surtout l'un des meilleurs.
Ah ouais, cool. Mais tu sais comment il a commencé la beatbox ?
Non, viens, on va lui demander.
Ben, j'ai commencé par passion. Quand j'étais tout petit, j'avais 13-14 ans. Et j'ai vu un ami à moi qui faisait ça. Et il a fait ça devant moi, et puis moi, je suis tombé amoureux de la beatbox, tu vois. J'ai regardé ça, j'ai fait « waouh ». Et puis aussi, grâce à un film qui s'appelle « Police Academy », et dedans, il y avait Michael Winslow qui faisait tous les bruitages lui-même avec la bouche.
Quand avez-vous commencé la beatbox ?
La beatbox, j'ai commencé en 1986, donc ça fait 33 ans que je fais de la beatbox.
J'imagine que vous avez déjà participé à des concours. Quel est votre palmarès ?
Alors moi... J'ai pas vraiment un palmarès de champion ou comme ça de beatbox parce qu'on a créé le beatbox battle en 2003 quand on a fait la convention internationale à Londres. Et puis, en fait, je fais partie du groupe de ceux qui ont créé le beatbox battle. Donc, j'ai jamais participé à un concours, j'ai plutôt fait le jury.
Nous savons aussi que vous avez une école de beatbox. Comment vous est venue l'idée de faire la beatbox dans les écoles ?
Eh bien, justement, ce n'est pas que j'ai une école de beatbox parce que je ne voulais jamais donner des cours. C'est un petit peu fatigant pour moi de donner des cours. Mais je fais des workshops, donc ça veut dire que je fais 45 minutes de démonstration qui est musique, culture et amusement. Donc, c'est comique à la fin.
Qu'enseignez-vous dans les écoles ?
Ben, on enseigne la musique, le rythme, la coordination, parce que ça, c'est de la coordination de mouvements. Donc la gorge, le nez, les lèvres, les dents, la langue. Et puis, c'est plutôt qu'enseigner, c'est que je donne l'impulsion à quelqu'un qui a une passion, qui a envie de faire ça. eh ben, il a déjà à l'école une démonstration de qu'est-ce qui est possible à faire. Parce que beaucoup, quand ils l'écoutent avec les oreilles, ils ne le voient pas avec les yeux, ils n'y croient pas ce qui est possible à faire avec la beatbox. Et c'est surtout ça que j'apporte dans les écoles.
D'où est venue la beatbox et quand est-elle apparue ?
Alors, la beatbox, ça a commencé pour moi, déjà personnellement, dans le hip-hop. Mais avant la beatbox, il y avait les bruitages avec la bouche, les voix a cappella, le scat. Par exemple, le scat, c'est chanter avec sa voix dans le jazz. Il chantait des trucs comme ça. Les groupes a cappella, c'est 5, 10, 20 personnes qui font un groupe et qui font que avec les voix. Donc, il y a des chanteurs, il y a des bruiteurs, il y a des beatboxers dedans. Et ça existe aussi depuis les années 30 et avant. Ou alors Louis Armstrong, Al Jarreau, Bobby McFerrin. Vous connaissez Bobby McFerrin ? Il fait comme ça. Don't worry. Be happy. I don't worry, be happy. Et justement, en s'inspirant de ces musiciens jazz, les beatboxers de New York, en Amérique, pas seulement New York, hein, ailleurs, mais ça a commencé vraiment avec la culture hip-hop à New York. Ils se sont mis autour d'un feu dehors parce qu'ils n'avaient rien du tout. Et les rappeurs avaient besoin d'une base musicale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait une base musicale avec la bouche. Et c'est comme ça qu'est née la beatbox.
Qu'est-ce que vous aimez dans la beatbox ?
Tout ! T'as peur, hein? Non, j'aime tout dans la beatbox parce que la beatbox, c'est quelque chose de magique. Qu'est-ce qu'il y a dans la beatbox? On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'instruments, on n'a pas besoin de rien du tout. On arrive sur place, tout le monde dit « Oh, moi j'ai dû prendre tout mon matériel, la batterie, c'était lourd !» Et puis toi, t'arrives sans rien. La beatbox, c'est ça, c'est magique. Pour moi, c'est un cadeau parce que c'est un instrument qui coûte rien et qui apporte tout et qu'on peut faire seulement si on a l'amour et la passion, et il n'y a besoin de rien d'autre.
Pouvez-vous nous jouer un rythme de beatbox assez compliqué ?
Ouais. Alors, un truc compliqué. Ça, c'est seulement avec la bouche. Maintenant, bouche et nez. Maintenant, bouche, nez et langue. On fait une mélodie maintenant. Alors, peut-être ça semble compliqué de faire les trois, mais comme je vous ai dit avant, quand on a une habitude, alors on peut faire des choses. Speaker B, est-ce que tu peux nous faire quelque chose de compliqué ?
Bonsoir. Attends, je vais refaire. Ok. Ah, tiens, j'arrive pas. Non, parce que j'ai pas la voix chaude. Alors, je recommence.
Speaker B, est-ce que tu peux nous faire un rythme technique un peu plus compliqué ?
Oui, bien sûr. J'arrive pas. Oh.
Speaker B, tu peux nous faire un rythme technique ?
D'accord.
Alors, un rythme technique, par exemple.
Lina, attends, tiens.
Hein, c'est quoi ?
l'adresse du site internet de Nino J, www.nino-j.ch. Tu devrais te prendre des cours.
Ah, oh, vous êtes sévères les garçons, j'en suis qu'à mes débuts, vous savez.
C'est vrai, et si on l'invitait à venir en classe chez nous à Westernance?
Trop bonne idée! Reste plus qu'à convaincre notre prof.
Je suis sûre que vous serez vous montrer convaincant. Merci à Arthur, Bastien et à vous, Lucas et Evan, pour cette belle rencontre. On s'écoute maintenant Samouraï de Shuriken.
Les déchaînés! À fond les boulons!
Vif, comme au premier jour de cours, où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération, en guerre permanente avec les autres. Les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'hérisse, les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal, la moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent, on pousse un caille, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ bara.
Les déchaînés. À fond les boulons.
Tiens, j'ai comme l'impression que vous allez nous parler du hockey, les garçons.
Eh oui, t'as raison, Lily. On s'est surtout demandé quel était le programme de la journée d'un hockeyeur professionnel.
Et pour ça, on est allé interviewer Kylian Motet.
Tu connais sûrement, il joue avec Fribourg-Gotteron.
Bien sûr que je connais. Et tu penses qu'il est chargé, ce programme?
Ah, ça, je ne sais pas, mais il va nous le dire.
Chargé, surtout le matin, je dirais. Où on s'entraîne tous les matins. Et puis après, c'est les jours de match où voilà, là, c'est un peu plus chargé. Mais sinon, en règle générale, c'est surtout le matin où on est beaucoup chargé.
Quel âge avez-vous?
J'ai 28 ans.
Depuis combien de temps jouez-vous au hockey?
Alors, la première fois que j'étais sur la glace, j'avais 3 ans, 3 ans et demi.
À quel poste jouez-vous?
Moi, je suis attaquant.
Quelle boisson buvez-vous avant les matchs?
Ça change, je bois souvent de l'eau, beaucoup d'eau, c'est important. Après on a des boissons énergisantes que le chef matériel nous met à disposition, donc c'est un peu ça qu'on boit.
À quelle heure est-ce que vous vous réveillez?
Alors comme je disais avant, ça dépend tous les jours, mais les jours, par exemple comme aujourd'hui, je me suis réveillé vers 8h. Ensuite, j'ai déjeuné, je suis venu à l'entraînement, on avait rendez-vous à 9h15. Après, on a fait une petite séance vidéo, toute l'équipe. Ensuite, à 10h30, on était sur la glace. Après ça, on a arrêté l'entraînement vers 11h30 environ. Puis après, on a fait un peu un programme de force dans la salle de musculation. Et puis vers midi et quart, midi 20, une douche et puis après manger.
Est-ce que vous suivez un régime alimentaire?
Alors oui, on a notre préparateur physique qui est assez fort là-dedans, donc il nous aide beaucoup. Après, on s'interdit rien, on va dire, mais il faut faire attention parce que tous les lundis matin on est pesé, donc faut pas arriver trop lourd à la fin du week-end.
Combien d'heures de sport faites-vous par jour ?
Oh là là, par jour, je dirais environ 2 heures, 2 heures et quart de temps par jour. Ouais.
Est-ce que vous faites de la musculation ?
Oui, alors effectivement, on fait de la musculation en général quand on n'a pas les matchs. Donc c'est plutôt le lundi, mercredi et jeudi. Parce que les jours de match, c'est un peu plus, l'entraînement est un peu plus calme. Mais effectivement, les autres jours, on fait quasiment, on a tous un programme sur le téléphone. Donc on fait de la force assez régulièrement.
Et à quelle dose ?
Comme je dis, ça dépend après les jours avant les matchs aussi. Par exemple, aujourd'hui, c'était de la force vraiment assez dure. Puis demain, ça sera un peu plus calme parce que c'est jeudi et vendredi, on joue. Et on joue vendredi, samedi. Donc demain, c'est un peu plus calme. Mais on essaie de se garder en forme comme ça.
Et comment êtes-vous arrivé à ce niveau ?
Alors, beaucoup de travail, je pense, d'envie. De plaisir aussi, parce que au final c'est un jeu, donc voilà, et puis il faut une petite partie de chance aussi, je pense. Voilà, j'ai eu la chance de jouer dans des équipes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont mis en avant, et c'est aussi pour ça que j'ai réussi. Mais je pense que le travail c'est la chose la plus importante, et surtout avoir l'envie de travailler
avec un programme pareil, pas étonnant qu'ils soient si musqués ces hockeyeurs, n'est-ce pas les garçons ?
C'est ça, reviens nous voir dans 15 ans et on en rediscute.
Et pour en revenir à Kylian Motet, son programme a l'air de plutôt bien lui réussir puisqu'il figure actuellement parmi les meilleurs attaquants de Fribourg-Gotteron et même de la Ligue avec 8 buts et 12 assists.
Jolie statistique en effet. Robin, Maxence, Valentin et Justin, merci pour votre partage. Je vous propose qu'on se quitte avec Dance Monkey de Tone and High. Merci à toute l'équipe des Déchaînés pour la préparation de cette émission, à Christophe et à Baptiste pour l'accompagnement et à vous tous qui nous avez écoutés. Bye bye.
Les Déchaînés, à fond les boulons. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh.
Angel.